La bande originale, soyez les bienvenus avec Marina Rollman. Bonjour Marina.
Bonjour les amis.
Avec Tom Villa, Jérémy Crédville, bonjour. Daniel Hello. Morin et tout à l'heure, ce sera Tanguy Pastureau et notre invité, ça sera Camille Chamou.
Oh.
Je l'adore.
Camille viendra, ouais, on est plusieurs à l'adorer, mais moi, Prums. Camille viendra nous parler tout à l'heure de la 9e édition du Champs-Élysées, pardon, Film Festival, un festival qui regroupe du cinéma indépendant, qu'il soit français ou américain. Et malgré la situation, et c'est là où ils sont forts et intelligents et brillants, et le festival se tiendra quand même, on vous dira tout à l'heure. D'abord, Marina, évidemment, savoir si tu vas bien, Marina, parce que là, tu es entourée que de mâles. Testos. Bon, ok, d'accord. Le week-end
le Covid n'a pas fait pitié. Hein. Pleine gueule. Hein.
Testostérone, je vais y arriver. Daniel, vous êtes d'accord avec moi? L'alcool, ça rend con, vous êtes une preuve vivante.
Ah, certes, mais contrairement à vous, Nagui, qui n'avait pas besoin d'alcool, hein, vous n'attendez pas l'apéro pour être un peu débile, mon garçon. En tout cas, oui, c'est vrai, vous avez raison. Passer une certaine dose, c'est clair que ça rend pas, disons, super malin. Ça rend pas malin, mais ça rend téméraire, surtout en Pologne apparemment. Hein. La semaine dernière à Varsovie, un jeune, bon, visiblement un peu éméché, s'est rendu au zoo. À un moment, il trouve que l'ours dans la fosse devant lui le regarde bizarrement. Vous savez comment ils peuvent être les ours, hein. Ils ont souvent ce petit air narquois, un peu méprisant, hein, cet air du genre « Ouais, je suis un ours, je suis trop cool ». Et ben là, le gars, ça l'a gonflé. Il est descendu dans la fosse, il a commencé à cogner la bête. Les gardiens du zoo sont intervenus pour défendre l'ours. Mais c'est quoi ces ours polonais qui se laissent tabasser par des poivrons? Il est passé où l'ours de nos cauchemars qui décapitait du bûcheron à coups de papade?
Évidemment.
Ah, ils sont trop nazes ces ours polonais. Non mais là, c'était un jeune gars qui lui a sauté dessus. Et il est stressé le bestiau. Mais ça aurait donné quoi si c'était Depardieu qui l'avait chopé l'ours? Il serait laissé manger par le comédien. Ah bah Depardieu, tu lui donnes assez de pinard pour accompagner le plat, il bouffe l'ours en entier. Non, c'est plus que c'était les ours. Alors je vais vous dire une bonne chose, voyez Nagui. Oui, oui, les animaux. Oui. Les animaux ne méritent pas l'attention, la mais bienveillance si, que vous leur portez. Si. Bouffons-les. Soyons tous carnivores. Voilà ce que je dis, à cause d'un ours polonais.
Mais non, t'es n'importe quoi, toi. T'es même à jeun, t'es dangereux. Merci, Daniel. Allez, cette bande originale, on va évidemment faire un blind test pour commencer. Et nous
de quoi
allons... Bah, justement... Puisque le festival dont Camille Chamou est jurée et dont elle va venir nous parler est un festival du film français et américain, des musiques de films, de films français, de films... Ah bon, vous n'êtes pas cinéphile?
Bah non, mais j'avais révisé tous les Camilles, moi.
Pas con.
Non, faut des cinéphiles.
Le
non, mais
film,
ça va.
Le sac des filles, le petit
mais
vieux
non,
machin.
Mais non. Vous avez tous joué dans un film, déjà. Marina, t'as joué déjà au
sûr.
Cinéma. Daniel Morin était pompiste.
Oui, vite fait.
Jérémy Crédville avec Marc Dorcel.
Retraite.
Tom Villa aussi. Voilà, donc tout le monde, vous avez tous joué. Donc, aucune excuse. Je vais commencer très, très facile. Très facile.
Crédville. Pulp Fiction.
Jérémy.
Tom.
Pardon, Jérémy.
Pulp Fiction.
Exactement. Qu'est-ce que c'est bon, ça.
Je confonds toujours avec la grande vadrouille.
Mais on ne sait jamais qui c'est.
Je crois que c'est Hank Williams, mais peut-être j'ai de la merde.
Pas du tout, c'est un groupe qui s'appelle Les Surfs, et le morceau s'appelle Misirlou.
Donc tu dis la merde.
Je crois que c'est une reprise.
Mais non, ça, c'est la version originale. Parce que
Marina, bien joué.
Quentin Tarantino, et juste les bandes originales de Quentin Tarantino, elles sont totalement dingues. Quoi. Il peut faire n'importe quel film, il sortira toujours des BO formidables. Jérémy marque un premier point. Là, je pense que ça va être extrêmement facile. Donnez-moi votre prénom pour prendre la main.
Daniel. Jérémy. Les Bronzés.
Ah non, c'est Daniel Tom. D'abord. Non. Daniel.
Les Bronzés. Ouais.
Exactement.
Ah, j'ai 9 minutes de délai. C'est Daniel qui faisait les chœurs.
Mais ça, c'est le problème, c'est d'être avec nous en ce moment. Chacun, je le rappelle, est chez lui, c'est pour ça qu'il, ou chez elle, c'est pour ça qu'il y a un petit délai. Et en plus, Jérémy Crédville intervient par Minitel, donc c'est pour ça que ça rajoute évidemment une difficulté. Attention, donnez-moi votre prénom pour prendre la main.
Jérémy,
Daniel,
Jérémy. Oui, Grease.
Mais là, on sent dans la réactivité de Jérémy l'improvisateur. On sent cette personne qui fait des choses rapidement.
Tu sais que je dis mon nom avant d'entendre la note.
Ouais, c'est ça. J'ai l'impression.
C'est pas un tout pour le tout.
Je vous ai pas dit, mais je laisse en entier aussi. Je laisse tout le long du film.
Ouais,
ah oui, d'accord.
J'aime bien.
C'est une heure et demie. Tom Villa, tu veux pas jouer hein, aujourd'hui, on est d'accord. Hein, donc c'est.
Ah mais si, je te jure que je les aime et c'est le délai qui me nique. Mais vas-y, ouais. Vas-y.
Non.
C'est le troisième à chaque fois.
Et ne sois pas
vulgaire. Ah si,
bien,
si. Ah, non, mais ça va.
Attention.
Daniel.
Jérémy.
Ah non, c'est Daniel qui a pris la main. Daniel.
Les chariots de feu.
Joli. Vangelis pour la musique. Égalité entre Jérémy et Daniel Morin. Rien.
Et puis,
égalité. Et j'allais dire égalité aussi entre Marina. Et
égalité de notre côté,
oui.
De Marina.
Oui, ça va. C'est bon.
C'est serré.
Mais j'attends le super banco à la fin qui vaut 12 points.
Le super banco, alors pour l'instant.
Oui,
évidemment. Là, pour l'instant, je sais pas si c'est facile ou difficile. Je me rends pas bien compte.
Daniel,
Jérémy,
Tom,
c'est
la
cité
Daniel.
De la peur.
Non, c'est Daniel.
Non, arrête.
Cité de la peur.
Ouais. Youpi, dansons la Carioca. C'est bien.
En même temps, Daniel, il est dans ton studio.
Non. Je suis sur les genoux de Nagui.
Fabrice, on voit dans le zoom.
C'est moi qui envoie les sons.
Attention. Bah
ouais.
Mais j'ai jamais vu aussi peu de points inscrits par Marina et Tom. C'est incroyable, ça me choque.
Pardon.
Daniel.
Oui, Daniel.
Hop.
Réservoir Dog.
Oui, Réservoir.
Stuck in the middle with you.
Avec Madman qui danse. Avec son rasoir.
Madsen,
pardon.
Ouais, c'est ça.
Attention, il y a 4 points pour Daniel, 2 points pour Jérémy, 0 pour Marina.
C'est le délai.
0 pour Tom.
Quatre points pour délai.
Marina, t'en avais vraiment aucun? Sans blaguer.
Je mets un peu de temps.
Fais des musiques de livres.
Attention, ce titre peut rapporter 5 points et donc la victoire.
Bah alors Daniel.
Marina, le Windmills of Your Mind, on est d'accord, c'est ça?
Le film,
c'est
Marina.
L'affaire Thomas Crown.
Oui.
Oh, c'est trop montada. Mais du coup, je suis troisième.
Ouais.
Du coup, t'es viré de la bande, Jérémy. Et on va prendre les clés de chez toi.
Mais t'as bien d'arriver. Alors que je t'ai défendu avec les livres.
C'est vrai.
Bon, ça va, j'ai pas été trop méchant, franchement, c'était
musique
tellement connue, mais alors, être battu comme ça, Daniel, franchement, être battu comme ça sur le poteau par Marina, je serais toi, mais tellement j'aurais les nerfs.
J'ai pas les nerfs, c'est une personne de qualité. 4-4, c'est une personne de qualité, ça va.
Non, 5 points pour Marina, 4 pour Daniel, ouais. Jérémy 2 et Tom va nous rejoindre pour la suite de l'émission.
Ça y est, on a Tom qui est en ligne, il paraît.
Ça sera après Norah Jones et I'm Alive dans la bande originale.
La bande originale, Nagui sur France Inter.
Tout nouveau titre de Norah Jones dans votre bande originale ce matin.
Ouais, c'est pas le meilleur. Hein.
Ça s'appelle I'm Alive.
C'est pas I'm Alive.
Si.
Just sit and wait. Don't move. Just hesitate. You can hope and pray. You can moan.
just live with them. She walks, she runs, she fights almost as well, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts at night. A man who won her rights and usually wins. But she's alive, oh, she's alive. She's alive, oh, she's alive.
Nora Jones avec ce titre, I'm Alive, dans la bande originale. Oui, mais ça, c'était pas un blind test. Voici Jérémy Crédville.
Alors aujourd'hui, les amis, on va parler Tiger King. Comme ça, j'ai pas besoin de vanne dans mon papier, il suffit juste de décrire les personnages. Pour les néophytes, Tiger King est un documentaire sous forme de mini-série qui aborde les relations tendues entre directeurs de zoos américains. Et là, vous vous dites, attends, mais c'est de la merde. Mais si je vous précise que le titre original, c'est Tiger King, Murder, Mayhem and Madness, là, vous dites, putain, mais ça déchire. Sauf si vous parlez pas anglais, là, vous dites, putain, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Murder, Mayhem and Madness, ça veut dire meurtre, chaos et folie, hein, et pas amour, gloire et beauté. C'est simple, dans Tiger King, on a l'impression que tous les personnages ont été créés par Tarantino, vraiment. D'ailleurs, on a tendance à parler d'eux comme des personnages, alors que ce sont des personnes, ce sont des gens comme vous et moi, à part qu'ils possèdent des tigres et qu'ils les considèrent comme des gros chats. Alors, pour info, un tigre, c'est pas un gros chat, c'est un tigre. L'hippocampe, on appelle ça cheval des mers, c'est pas pour ça qu'on fait des courses avec à Longchamp. Bon. Et le constat du documentaire est simple, tous les propriétaires de grands félins sont complètement tarés. Je soupçonne Maggie de posséder un lynx.
Non, mais
il y a
non,
par exemple le docteur Antle. Docteur en quoi? En science mystique. Ok, donc moi je suis docteur en spaghetti bolognaise. Ce mec, c'est Georges de la jungle. Il se déplace à dos d'éléphant avec un singe, il a trois femmes à qui il a fait refaire les seins et elles ont chacune une maison dans son parc animalier. Je vous rappelle que ça n'est pas un personnage, c'est une vraie personne. Son ego fait environ 5 fois la taille de Teddy Riner et comme tous les psychopathes, il a constamment les yeux grands ouverts. Avez-vous déjà vu Daniel Morin cligner des yeux? Non. Il y a aussi Carole Baskin, sosie de Loana maintenant, mariée au sosie du prince Charles. Toujours habillée en imprimé léopard, elle a les yeux moins ouverts que ceux de Doc Gynéco. Propriétaire d'un refuge animalier, elle n'a que des bénévoles dans son parc, même les soigneurs. Pour elle, tout le monde peut prendre soin des animaux à condition de les aimer. Tu aimes les félins? Oui. Ok, bah va couper les ongles de Sherkan. Son premier mari millionnaire dont elle a hérité a mystérieusement disparu. Il y a 98% de chances qu'il ait disparu dans un tigre. Et elle aussi, c'est une vraie personne. Et puis tu as Joe Exotic, le personnage principal qui a pris Joe Exotic comme pseudo alors qu'on sait qu'Exotic Exotic, c'est le parfum le plus dégueulasse de tous les Oasis. Joe Exotic, c'est Bruno Vandelli avec un flingue. Je dis pas ça par rapport à sa sexualité, mais plutôt par rapport à sa couleur de cheveux et ses jeans trop moulants. Joe Exotic, il porte des slims, un flingue à la ceinture, des vestes en paillettes, plus de boucles d'oreilles que de lobes, une moustache et enfin une coupe mulet peroxydée. Coupe mulet peroxydée, double gouttiotte. Sur le torse, il s'est tatoué 3 trous de balles, de flingue, hein, pas des anus, et il est propriétaire d'un zoo dans lequel il manque un membre à chaque employé. Qui une main, qui deux jambes, qui des dents. Ah bah c'est simple, si tu veux travailler pour Joe Exotic, il faut que tu aies plus d'orteils que de dents, je te promets. Ce mec est complètement fou. Sa passion, faire de la country et tirer sur des trucs. Notamment des trucs qui ressemblent à Carole Baskin. Il est marié avec deux mecs, et là vous dites, oh ça va, on est en 2020. Oui, mais il est marié avec deux mecs en même temps. Et les deux mecs s'en foutaient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient tous les deux hétéros. Ah mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour de la mettre? L'un de ces deux maris meurt, Joe se remarie 2 mois plus tard et prend comme témoin qui ça? La mère du mort. Je te jure que c'est vrai. Joe Exotic, il était candidat à la présidentielle des États-Unis en 2016. Heureusement, il n'a pas été élu, sinon on aurait un taré à la Maison Blanche. Joe Exotic, qui est une vraie personne, je vous le rappelle, est actuellement en prison. Je vous laisse découvrir pourquoi dans le documentaire où on le voit plus occupé à devenir célèbre qu'au devenir de ses animaux. Un documentaire sensationnel qui nous rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a plus de tigres en captivité aux États-Unis qu'en liberté dans le monde entier.
Ciao. Waouh, merci Jérémy, bravo. Plaisir. Mais tout, alors, excusez-moi, vous l'avez tous vu cette série
documentaire de ces gens.
Mais c'est pas possible, mais je suis tellement en retard par rapport à vous. Mais vous n'avez pas de vie.
Au-delà de tout, Nagui. Au-delà de
vous
tout.
Vous avez pas de vie pour regarder Tiger King.
T'en es où dans Dallas, toi, déjà?
Moi, l'épisode 2. Ne me dis pas la fin. Et donc, c'est un document. On est d'accord. J'ai bien compris. C'est un documentaire, Jérémy. Il n'y a rien de fiction.
C'est un documentaire, voilà. Rien n'est fictif. Non, tout est vrai. C'est ça le pire.
Mais, alors, pardon, est-ce qu'il faut regarder ça avec un second degré comme vous regardez la télé? Les réalités, les Marseillais et compagnie.
Un peu. Il faut regarder ça avec.
C'était une émission de télé-réalité qu'un mec voulait tourner.
Oui, non, mais vous êtes gêné là de répondre.
Non, il faut regarder ça avec pas mal de foi en la vie, parce que c'est quand même, il y a un voyeurisme de choses assez sales, et il faut avoir envie de vivre après, quoi.
Et après, on se dit que nous, finalement, ça va pas mal.
C'est complètement, oui. Il y a
Mais alors, pour que tu, Daniel, vois une série et que tu te dises à la fin, finalement, je suis pas mal, c'est que c'est vraiment cette série, c'est n'importe quoi, je te le confirme.
C'est que c'est très grave.
Camille Chamou est notre invitée, elle nous a rejoint. Bonjour, Camille, merci d'être à notre
micro.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. D'abord, première question sur la santé, sur la forme, sur la famille. Tout le monde va bien autour de vous, ça va?
C'est parfait. On est dans une grande joie.
Très bien. On parlait de la série Tiger King. Vous l'avez vue, vous? Cette série sur c'est Netflix, hein, je crois, qu'il diffuse. Ouais.
Non, mais moi, c'est affreux. Je me suis endormie au premier épisode. Mais parce que c'est... Oui, je sais, tout le monde adore. Je sais, mon mec est devenu fou, il m'a dit, mais enfin, comment tu peux t'endormir? Mes meilleurs amis se font tatouer Tiger King sur le corps. Enfin, vraiment, tout le monde adore cette série.
Parce qu'il était 4 heures du matin, c'est peut-être une bonne raison aussi pour s'endormir.
Il était pas toto. Non, mais c'est, ça a l'air complètement fou, effectivement. Mais effectivement, ça porte un truc un peu dark sur la société américaine qui me fait un petit peu peur.
Bon, alors, Camille, vous êtes dans le jury du Champs-Élysées Film Festival qui débutera du 9 juin et ce jusqu'au 19 juin pour une 9e édition, une édition particulière puisqu'elle se déroulera en ligne. Expliquez-nous exactement comment ça va se passer. Est-ce que c'est que le jury qui sera et les jurés qui seront en ligne et qui vont pouvoir échanger entre eux et juger des films, ou est-ce que nous aussi, public, on va pouvoir assister à des, entre guillemets, à des projections, à des diffusions de courts-métrages ou de films?
Non, en fait, ce qui est super, c'est qu'ils ont prévu de faire... Donc, tous les films sont en ligne et gratuits. Il suffit d'aller sur le site du Champs-Élysées Film Festival et de s'inscrire dès maintenant. Et en fait, les spectateurs, on a toute la programmation en ligne. Par exemple, le premier soir, il y a l'ouverture, comme vous avez un film d'ouverture dans tous les festivals. Et là, c'est Jumbo, un super film avec Noémie Merlant et Emmanuel Berco. Et il est en ligne, gratuit, à l'heure de... à 20h30. Comme si c'était, si vous voulez, c'est exactement tout pareil qu'un festival, sauf que les gens sont chez eux. Et c'est 100% gratuit et en ligne.
Sur un moteur de recherche, on tape Champs-Élysées Film Festival et on aura...
Exactement, .com.
Arrête, toi. Salaud.
Vous savez écrire Champs-Élysées. Bon, voilà.
Oui, mais c'est sur film. C'est sur film qu'on a un problème. C'est fini le blind test, Jérémy. Et donc, il y aura aussi bien les longs métrages américains que les français qui seront diffusés et tout le monde pourra y assister en ligne, c'est ça?
Exactement.
Exactement. Il y a même, en fait, dans leur principe de online, ouais. Il y a même normalement, quand le festival a lieu, donc, dans la vraie vie, il y a des DJ sets tous les soirs à 19h. Exact. Et là, en fait, ils gardent ce principe.
Sur des rooftops.
Vous pouvez vous connecter, sur des rooftops, si vous avez un rooftop, ça, c'est chacun qui voit. Mais moi, personnellement, ce sera dans ma cuisine. Mais c'est tous les soirs à 19h. Vous avez, Barbara Carlotti, Clara Isée, plein de gens, quoi. Exactement.
J'adore ce titre.
Moi aussi j'adore ce titre.
J'avais 14 ans et j'aimais danser.
Il est génial ce titre.
Je sortais la nuit quand tout le monde dormait.
Oui, mais on est en train d'écouter la Camille, vous n'êtes pas obligé non plus de chanter sur le.
Mais pardon.
Non, mais elle est dans sa cuisine, elle fait comment?
Alors la programmation, il y a également Yuxek qui fera son set. Clara Ose également.
Il est arrivé une chose bien étrange.
Color Grey.
Let's just keep it real. Living that boss society that means we can chill.
Rebecca Warrior. Lucien Tunes. Et donc, en fait, en se connectant sur le site, on peut être membre privilégié, entre guillemets, de ce festival virtuel. J'ai sincèrement envie de dire que c'est le bon côté des choses, parce qu'on a accès d'une manière extrêmement confortable et gratuite à énormément d'artistes, de spectacles, de films, ce qui n'aurait pas été le cas, d'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être parisiens ou se procurer les passes pour assister habituellement à ce Champs-Élysées Film Festival qui a lieu tous les ans au mois de juin. Et en plus, cette année, et en plus, comme toutes les années, il y a des masterclass, et là aussi, les masterclass auront lieu en ligne.
Exactement. Il y a Stephen Frears, notamment.
Et c'est la classe.
C'est incroyable, en fait. Non, mais c'est une super opportunité, moi je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il faut voir quand même la réinvention que permet cette situation un peu étrange que nous avons traversée, quoi.
Mais alors, ce qui va se passer, c'est que vous faites partie donc du jury. Vous êtes aux côtés de William Lebgill, du réalisateur Sébastien Livgist, d'Elina Lovenson et du réalisateur Sébastien Marnier. Vous serez tout ça présidé par Moya Medour.
Ouais.
Vous êtes
de Papichat.
Alors vous allez faire comment? Vous allez vous réunir? Vous allez discuter?
En fait, on a commencé, c'est-à-dire qu'on fait toutes les semaines, on fait un petit point et on se donne trois films à voir chaque semaine. Comme il n'y a pas la même intensité que quand vous êtes dans une salle pendant une semaine, tous les jours, on a essayé quand même de faire un rendez-vous régulier un peu plus en amont et du coup, d'avoir bien le temps de réfléchir aux films et tout ça. Donc on se donne, par exemple, les trois premiers films français à regarder, hop, on fait un point dessus. Les trois films français suivants, voilà, et on se réunit en Zoom, comme tout le monde.
Non, mais on est sûr que tout le monde a regardé les films.
Ah bah parce qu'on en parle. Ah non, bah oui, on est quand même pas très
honnêtes.
Nombreux, donc.
Oh,
ouais, on est honnête.
C'est pas possible.
Non, on est vraiment très très honnête.
Oui, pareil que à gauche.
Non, on est vraiment super honnête parce que William Lebgill, à un moment, il a dit moi, il y avait un film en espagnol sous-titré anglais et c'était trop compliqué, donc on lui a envoyé des sous-titres français et tout. On est super honnête.
Lui, il est même un peu trop honnête, lui. L'adresse du Champs-Élysées Film Festival, elle est assez simple d'ailleurs. C'est tout attaché, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas d'underscan, il n'y a pas de piège. Champs-Élysées-Filmfestival.com, voilà, tout attaché. Est-ce que lorsque les artistes font la promotion de leurs films, disent souvent aller au cinéma parce que voir un film sur un grand écran, c'est quand même pas pareil que de le regarder sur un ordinateur ou sur une tablette. Là, on est d'accord, c'est un peu l'inverse puisque on se connecte et on le regarde sur un ordinateur.
Oui. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus sympa que rien. En fait, moi, ce que je
trouve, c'est vrai. C'est vrai. Bien vu.
Merci Camille.
Non, mais attendez. Si je peux me permettre, moi, j'ai l'impression que le truc très sympa, dans ces périodes où il y a plus de live, le truc très sympa, c'est de rétablir la notion de live. C'est-à-dire que, effectivement, le support, il est peut-être moins chouette. Mais ce qui est vraiment super, c'est la sensation que tout le monde se connecte en même temps. Moi, je fais exactement la même chose. Je suis en train de faire exactement la même chose pour roder mon spectacle. Je vais le faire sur Zoom. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est de rétablir Ben, je vais le tenter. Je commence mi-juin, fin juin, là, d'ici 15 jours. Ben, sinon, où est-ce que je le rôde? Et c'est pareil que le Champs-Élysées Film Festival. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où je trouve que ce qui est rigolo, c'est de retrouver la notion de tout le monde se connecte à la même heure pour la même chose. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est pas pareil que de regarder, de consommer. Ben non,
vous
parce que là, non, c'est pas ça. C'est que d'abord quand c'est sur Zoom, mais ça c'est autre chose. En ce qui concerne mon spectacle, quand c'est sur Zoom, évidemment il y aura de l'interaction, donc ça c'est pas comme à la télé. Mais pour le Champs-Élysées Film Festival, les DJ ils peuvent jouer avec exactement le moment qu'ils. C'est-à-dire que ce n'est que du direct. La télé, ça n'est pas que du direct.
C'est
que du direct. Et donc ça, je trouve ça vraiment malin d'avoir fait un set tous les soirs de 19h et tout ça. Enfin voilà, ça rétablit un petit truc excitant du live, quoi.
Oui, et puis il y a le côté danger toujours du live, il peut y avoir un imprévu, il peut y avoir une intervention à laquelle on s'attendait pas ou quelque
exactement,
chose
qui
dérape. Et puis Eric Ruff, quand il nous avait parlé de entre guillemets de la chaîne web de la Comédie Française, tenait lui aussi à ce côté. Alors même si c'était pas forcément tout n'était pas forcément en live, mais en tout cas il tenait au rendez-vous comme le lever de rideau, c'est-à-dire il fallait que la diffusion de la pièce de théâtre du document entre guillemets de la Comédie Française ou de la masterclass ait lieu à un horaire précis, comme ça on se réunit et on attend ensemble en même temps le début et on assiste en même temps à quelque chose. Il y a un côté communion qui se fait. C'est vrai que l'interaction est sûrement un effet positif de Zoom ou de toutes les applications qui permettent en tout cas de faire de la vidéoconférence. Mais alors roder un spectacle, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai vu les yeux écarquillés de Jérémy, Marina et Tom en disant waouh, comment ça va se passer? Alors raconte. Racontez-nous, est-ce que vous adressez à un groupe de potes déjà, un noyau dur comme ça d'amis ou de fans, ou est-ce qu'on s'inscrit, comment ça se passe?
Oui, en fait, je vais commencer comme ça. Mais c'est-à-dire que moi, je suis partie d'un truc tout simple. Hein. Je me suis dit, je vais jouer mon spectacle l'année prochaine et normalement, je le rôde. Et là, je peux pas le rôder. Donc, je me suis dit, je vais le rôder sur Zoom, comme j'étais en confinement et que j'avais terminé de l'écrire. Ben, je me suis dit, j'ai commencé à le travailler. J'étais avec une de mes meilleures amies, qui est la metteur en scène de mon dernier spectacle, Camille Cotin. On était confinés ensemble. Donc, du coup, elle m'a aidée à travailler. En fait, on a eu cette idée à un moment de se dire, bon, ben, c'est parti, quoi. On essaye de le faire, de le roder sur Zoom. Donc on a fait une version, si vous voulez, évidemment ce sera mieux en live, évidemment, enfin que moi ma base c'est le théâtre, c'est le live, c'est les gens devant moi, mais je trouve que c'est une façon de rétablir une notion de spectacle vivant, d'accident du spectacle vivant et tout ça, mais avec les moyens qu'on a et qu'on de toute façon, ce qui est drôle c'est d'essayer de se réinventer hein, quand on a des contraintes
exactement.
Horribles
non.
ce qui est marrant
surtout,
c'est d'essayer de les contourner, quoi.
Exactement, mais c'est le principe de l'architecte qui a un poteau au milieu d'une maison et qui va le mettre en valeur,
oui,
plutôt que de
voilà.
dire il faut que je le casse et tout s'écroule. Donc
ouais. Il est fort, Nagui, quand même.
Quel est l'avantage?
Merci Valérie Damido.
Il est fort, Nagui. Il est fort, c'est Nagui.
Vous savez où je mets le poteau, Daniel Morin? Écoutez bien, vous savez où je mets. Est-ce que vous allez trouver un avantage? Alors quel est le plus que pourra vous apporter Zoom? Est-ce que par exemple il y aura une espèce de débriefing à la fin d'échange sans aller jusqu'à la masterclass, mais vous allez parler à vos différents spectateurs ou pas?
Oui, en fait, je me dis pour le moment, c'est complètement en expérimentation, hein, mais je me dis le moment que je vais limiter un petit nombre de spectateurs, genre 50, comme ça je les vois bien tous en mosaïque et tout. Et évidemment, je les vois pas pendant tout.
Ouais,
je pense que je vais faire un truc comme ça, 40-50, et puis je vais essayer un petit nombre de fois, mais je commence tout doux, quoi, je vais voir comment ça se passe. Hein. C'est pas un risque énorme, au pire, ce sera 300 personnes qui auront vu une catastrophe, mais je pense pas. Je pense que ça va être rigolo. Enfin, j'espère, quoi.
On a tous envie de s'inscrire, surtout. Donc, il faut s'inscrire.
Je ferai une réunion Zoom. Je vais faire une réunion Zoom et puis je vais communiquer sur mon petit Insta, quoi.
D'accord.
Je vais mettre 5 jours, 10 jours avant, salut. Je fais ma première, je vais peut-être pas écrire salut parce que c'est un peu naze, mais je vais écrire.
Salut, maman, bonjour.
Kikou, les copains. Non, mais je vais écrire que voilà que dans X jours, je commence et que donc les gens peuvent s'inscrire complètement gratuitement pour découvrir si ça les intéresse. Après, moi-même, je n'ai aucune notion de est-ce que les gens sont capables de tenir 50 minutes, parce que je vais quand même faire 45 minutes, 50 minutes. Je ne sais pas si ça pourra tenir, mais je l'exploite. Et oui, effectivement, je peux voir la mosaïque des gens, donc je peux les accueillir exactement comme dans mes spectacles, j'accueillais les retardataires, tu sais.
Alors, la question, par contre, c'est, il risque d'y avoir des haters ou des gens qui viennent volontairement être des semeurs de troubles. On peut les éviter, ça? Les haineux qui sévissent sur Internet.
Oui, alors je te remercie de me mettre cette idée en tête. J'y avais pas du tout pensé, donc ça c'est chouette. Mais non, non, ce que je me dis, c'est qu'ils
c'est
peuvent pas faire grand chose.
Du Nagui,
c'est pas le spectacle de Dieu donné non plus. Hein.
Non, ils peuvent pas faire grand chose parce qu'en réalité, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est envoyer des commentaires, ce qui est assez désagréable, je te l'accorde. Mais en fait, c'est toi qui gères les commentaires quand t'es le mec qui fait le zoom, en fait. Le
d'accord.
Directeur de la réunion. Donc il suffit d'accord. de pas les regarder ou de désactiver les trucs, quoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu peux mettre
même
sur
renommer
Zoom.
Les gens.
Ah ouais, voilà, d'accord. Mais tu peux mettre sur Zoom, tu peux faire que tout le monde s'entend ou que tout le monde ne s'entend pas. Donc par d'accord. moment, tout le monde peut applaudir en même temps pour donner une petite sensation aux gens d'être tous ensemble, comme quand tu souhaitais joyeux anniversaire à quelqu'un pendant le confinement.
Ça sent le vécu.
Ouais. Voilà, et que tu veux des fêtes tous ensemble et que tout le monde parle en même temps. Et par moment, quand tu veux plus que tout le monde parle en même temps et qu'il y a que toi qui parle, et puis en même temps, je vais te dire, c'est comme dans un spectacle, le risque qu'il y ait un malade mental qui arrive sur scène et qui.
Oui, oui, non, j'entends. Mais voyons le côté positif des choses. En tout cas, c'est le work in progress d'un spectacle comme jamais ça n'a été fait, ou en tout cas j'imagine comme jamais Camille Jamoux vous ne l'avez fait pendant votre carrière, et là d'un coup vous retrouvez avec cette ce côté plus. Est-ce que et c'est justement la première question que je voulais poser autour du confinement, est-ce que les 55 jours de confinement ont changé quelque chose chez vous?
Oui, ça a changé quelque chose sur le moment, mais comme la vie est ainsi faite qu'on reprend toutes ses mauvaises habitudes, je pense que ça y est, tout est très loin. Hein. Donc oui, effectivement, sur le moment, j'ai perdu la notion de la pression, j'étais hyper cool et je faisais de la cuisine, mais ça y est, c'est mort.
Est-ce que vous allez changer quelque chose maintenant que tout ça est fini? Est-ce que la notion du temps est modifiée? Est-ce que les valeurs, les rapports humains sont différents? Est-ce que vous avez vécu avec votre enfant aussi?
Oui, alors j'ai appris à connaître mes enfants, c'est des gens hyper sympas. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est chouette. Mais après, quand je fais des
lequel vous préférez?
C'est une très très bonne question à laquelle je te répondrai après l'émission.
Est-ce que le spectacle, lui, va changer, puisque justement le temps était au cœur de ce spectacle initialement?
Exactement. Wow,
ça s'appelait éloge du minuteur. Donc
ouais,
j'imagine
c'est vrai,
que le.
C'est vrai. Oui. En fait, ça pour le coup, c'est très positif sur la réinvention. Je pense que tous les artistes ont tenté des trucs d'invention, de réinvention. Ça, je trouve ça génial. Mais de toute façon, c'est cette fameuse phrase de Michel-Ange: l'art naît de contraintes et meurt de liberté. Je pense que quand on a des contraintes, en fait, on est obligé de se réinventer. Et ça, c'est chouette. Limite, ça te donne de l'inspiration, les grosses contraintes, les grosses tuiles. Donc ça c'est bien pour les artistes.
Un peu comme un poteau au milieu d'une maison qui.
Mais attends, elle est bien cette métaphore. Mais d'où vient-elle?
De Valérie Damido. Nous allons évoquer des années en musique et le genre de musique que pouvait écouter à ce moment-là Camille Jamoux. On va partir avec.
Pas fredonner.
Je sais, j'ai un problème psychologique.
Je vais finir par la faire chanter dans une émission, Camille Jamoux, si ça continue.
Ouais, c'est ça.
Zombie.
Ouais, on fait la fredonner.
Attends, mais j'ai un truc super à raconter sur Zombie. C'est que moi, j'ai toujours cru qu'il disait IRA, genre l'armée irlandaise, et non pas In Your Head. Et en fait, je me suis engueulée avec des gens pendant le confinement en disant
parce que dans faut dire que dans le clip, en tout cas, il y a IRA, il y a beaucoup de drapeaux de l'IRA et la chanson est autour de ça, oui.
Bah oui, tu vois, j'étais sûre que c'était ça. Ils m'ont dit non, on a vérifié les paroles, ils ont raison. Mais bon, je trouve quand même que ça parle de ça.
Chacun son
interprétation. Si vous avez d'autres soucis dans la vie, Camille?
Ouais, j'ai énormément de problèmes.
On est dans les milieux des années 80, dans le milieu des années 90, Camille Jamoux avec ce titre. Justement, quelles images avez-vous? Est-ce que vous voyez quoi? Étudiante, en prépa, c'était quel moment?
Ouais, et précisément ce titre, je pense que c'était mon bac. Je pense que c'était mon bac parce que sinon c'est normal sup, mais c'était plus tard. Je l'ai raté, hein. Normal sup, hein, pas le bac. Mais ça aurait été fort de rater le bac, mais de réussir normal sup. Ouais, t'imagines, ça aurait été génial. Ouais.
Vous avez fait hypo-cagne, c'est ça. Et après, ouais.
Et après, j'ai échoué lamentablement et j'ai fait du théâtre. Au revoir, adieu, c'est plus.
Il y a eu un peu de fac, non, j'imagine.
Oui, enfin, tu sais ce que. Enfin, ça, non.
Pour le reste,
il sait pas.
Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait la fac 4 heures dans l'année, je pense.
Pour le reste,
oui.
pour la carte du Crous.
Enfin, en fait, j'ai fait la fac en confinement. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait la fac en télétravail. Mais voilà, c'était bien.
Et alors, le goût du théâtre est venu comment ?
Beaucoup plus tôt, j'en faisais à l'école, au collège. Enfin, dès qu'il y avait un atelier de théâtre, n'importe où, mais vraiment au square, je pense que j'y allais. Donc, j'ai toujours un peu fait du théâtre avec les gens que je trouvais sous la main.
Alors, la rumeur urbaine disait que c'était en voyant Michel Serrault jouer que vous avez eu envie de devenir comédienne.
Ouais, je l'ai vu dans l'Avare quand j'avais 6 ans, 7 ans. Et j'étais au 5e rang, enfin, ou 6e rang, j'étais vraiment tout devant. Et il est passé dans les rangs, c'était comme ça la mise en scène. Et il passait dans les rangs pour le monologue de la cassette. Et je l'ai vu passer devant moi et j'ai cru qu'il se décrochait de l'écran, quoi. J'étais complètement hallucinée.
C'est génial.
Ouais, et j'ai fait, oh là là, d'accord, je veux faire ça, Michel Serrault dans l'Avare.
Est-ce qu'il y a un professeur ou une prof de français qui a compté justement aussi dans votre amour du texte ? Parce que pour faire Canib, en études, il faut aussi aimer la littérature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été un détonateur ?
Non, je vais aller vraiment dans un truc qui va complètement contre le mouvement anticlérical de la pensée de gauche. Et ben, je vais vous dire un truc, c'est un prêtre, c'est ouf ou pas ? C'est un prêtre, le père Debin, qui avait, mais je ne sais même pas quel âge, je pense qu'il était très 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 vieux, qui quand j'avais 8 ans m'a fait participer à une pièce qui était l'histoire d'Abigail, la femme de David. Je sais même plus qui c'est, ça doit être dans l'Ancien Testament. Et bref, j'ai fait Abigail, la femme de David sur scène, et j'ai fait genre, ok, c'est ça. Non, je me souviens qu'il y avait des trucs, genre Dieu, et des injonctions et des trucs marrants, et voilà, mais c'était très drôle, et c'était la première fois que je me suis dit, je veux vraiment faire ça. Ouais, c'est hyper pointu comme expérience.
C'est pointu, mais c'est toujours bien de se dire, il y a une personne qui a fait que notre vie a basculé.
Non, mais c'est vrai.
Et cette personne était un prêtre, tant mieux pour vous et bravo à lui.
Mais il faut raconter la fin de l'histoire.
Hein. Oh, j'étais sûre qu'il allait avoir une blague comme ça.
C'est moche, Tom Villa. C'est moche de pas assumer. En 2008, vous écoutiez Camille Chamou, vous écoutiez.
J'adore.
Ah bah, fredonner.
Ouais, pardon, je peux pas. Il faut pas écouter de la musique avec moi, je pourris toutes les chansons.
Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson de Mickey Green?
Je vivais en colocation avec trois potes, et en fait, c'était notre chanson du matin, mais tous les matins de l'année, de septembre à juin, on a écouté ça, et à l'époque, mais c'était fou, c'était notre chanson de réveil, et on le chantait tous ensemble, oh, I know, très fort, et très mal, et voilà. Mais on allait bizarrement, hein, on était jeunes, on était fous, on avait une poule, on était bizarre, hein.
Une poule à Paris dans un appartement, la pauvre?
Non, on avait une espèce de petite cour.
Ah, d'accord.
De petite courette.
Mais en même temps, ce casting, la poule, le prêtre et Camille Chamou, ça pourrait faire parce que ça.
On dirait un spectacle de Bernard Ménez au rond-point.
Vous avez été dans ces années-là aussi à la télévision. Vous aviez une chronique dans l'édition spéciale sur Canal. Ouais. Vous étiez à l'antenne une ou deux fois par semaine.
Ouais, trois fois même à un moment. Mais moi, je suis hyper admirative de tout ce que vous faites parce que je sais à quel point c'est horrible et comment on peut être mauvais et vous êtes hyper bon. Et franchement, je vous trouve incroyable parce que moi, j'étais très mauvaise parfois. Ah, mais c'est horrible. Le flux, je trouve ça épouvantable en chronique, je veux dire.
Qu'est-ce qui est plus dur? C'est la contrainte du rendez-vous, c'est de dire, voilà, j'ai une deadline, c'est demain telle heure, il faut que je sois prête.
Oui, et il y avait un truc, c'est que vous, c'est une émission où tout le ton est drôle. Enfin, essaye d'être drôle. Je plaisante. Non, tout le ton est drôle en général. Alors que
sauf l'animateur, oui.
Non, mais en 2008, il y avait cette espèce de mode de, dans toutes les émissions. Mais même quand elles sont genre vraiment journalistiques, au milieu, t'avais un humoriste qui devait débarquer et être hyper poilant en deux minutes. Et en fait, ça, c'était super dur, je trouve. Ce truc.
Donc d'arriver après un invité politique ou
je trouve que de dévoiler un drame. Ça. Mais de toute façon, je trouve ça hyper dur en vrai. Et puis chacun ses talents, et moi je l'avais pas à mort. Enfin, j'essayais, je pense que parfois j'étais bonne, mais franchement pas souvent. J'ai un souvenir de stress horrible de cette année à l'édition spéciale.
Oui, ouais. Tom.
L'année où il y a Camille, entre autres Thomas VDB, Chris Esca et Camille Combal.
Ouais, c'est vrai.
Ah, c'était une sacrée bande, ouais. L'exercice, vous l'avez fait également à la radio plus tard avec Michel Drucker en 2012.
L'exercice très familial, très sympa.
Alors, la différence pour vous entre la radio et la télé, l'exercice n'était pas le même parce que justement le contexte ou la tension entre guillemets sur le plateau ou dans le studio n'était pas la même. Oui, quelle était la différence?
Pour moi, c'est une différence énorme. Je trouve que la radio, il y a quelque chose de vraiment super agréable. Et c'est pas qu'on est planqué, mais je trouve qu'on est hyper détendu. Enfin, ce que vous faites, quoi. On est hyper, alors vous êtes vraiment particulièrement détendu, mais.
Trop.
Non, mais moi j'adore. Mais moi, c'est exactement. En fait, c'est la sensation d'être en liberté, en train de prendre un café avec
mais des gens. Mais venez dans l'émission, Camille. Venez participer.
Il y a trop de boulot.
La télé, j'avoue que moi, enfin, c'est vraiment hyper personnel. Je trouve ça trop tendant. Je trouve qu'il y a un ratio qui est trop de pression, pas assez de plaisir.
C'est peut-être que l'imaginaire que procure la radio de jouer justement avec une intonation, avec le rythme, avec le débit change totalement. Alors que la télévision, il y a quelque chose qui est un peu du domaine du viol, quoi. C'est-à-dire, elle vous prend l'image et le moindre clin d'œil, le moindre regard peut, ou et même la réalisation. C'est-à-dire que pendant que vous, les chroniqueurs, faites quoi que ce soit à la télévision, il suffit que le réalisateur ne soit pas au bon moment, au bon endroit, ou mette un plan de coupe sur un invité pour que ça tue un effet ou pour que ça détourne totalement le propos que vous avez tenu. C'est ça aussi le problème.
Exactement.
Mais après, il y a un métier qui s'appelle producteur et où normalement, les personnes qui sont en régie doivent faire ce travail-là. Qu'est-ce que ça vous apporte?
Tu devrais faire ça, Nagui, hein, t'as l'air d'avoir une bonne idée.
Non, sincèrement.
Ce serait légendaire.
Est-ce que le travail que vous avez fait en radio et en télévision, en chronique, vous a alimenté, vous a apporté une connaissance ou un savoir-faire quand vous faites de la promotion, quand vous êtes du côté des invités? Est-ce que vous maîtrisez mieux l'outil?
Oui, je pense que je ne suis plus jamais stressée dans les médias. Je pense que j'ai un truc de pas de stress. Je j'ai pas de tension. Enfin, j'ai plus l'impression.
Ouais, vous maîtrisez l'outil.
Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et après, non, mais il y a un vrai truc que ça m'a appris. Hein, faut le reconnaître, c'est que moi j'étais un peu une idiote en ce qui concerne, pas à tout point de vue, mais en ce qui concerne l'actualité et tout ça. Et en fait, c'est vrai que quand on est chroniqueur, on est obligé d'être connecté à l'actualité et de connaître tout et de savoir tout ce qui se passe. Et moi, j'avais un retard, mais c'était monstrueux. C'est-à-dire que la moindre affaire, je comprenais rien de quoi il s'agissait. C'était une case que j'avais fermée, genre ceci ne m'est pas accessible. L'actualité politique, des affaires et tout ça, c'était un truc où dans ma tête, je m'étais dit ceci ne me concerne pas. Et en fait, le truc de chroniqueur, ça m'a ouverte à être obligée de s'ouvrir. En fait, tout le monde peut comprendre. Hein.
À l'inverse, je trouve aussi que le rôle des humoristes et dans leur travail aussi, et de nous ouvrir. Et moi, je me mets dans la position de l'auditeur quand je suis avec eux autour de la table. C'est-à-dire que j'écoute et je découvre, par exemple, l'histoire de Tyre King. Je découvre des affaires politiques. Daniel Morin m'a appris des tonnes de choses sur Balkany et sur la bande.
Je
ne savais même pas qu'il existait.
Attention, Nagui, Tyre King, c'est pas Balkany. C'est pas la même personne.
Ça pourrait. Apparemment, vu ce que vous avez raconté, ça pourrait.
Non, mais il pourrait, c'est pas faux.
C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont apportés comme ça, qui sont amenés sur, y compris des vues, le grain de sel, la manière de percevoir les choses, qui sont extrêmement enrichissantes et extrêmement intéressantes. Mais ça veut dire qu'en fait, maintenant, quand on invite Camille Chamou, on peut plus lui faire, quoi. Elle sait comment gérer un plateau, rendez-vous, le maquillage.
N'allons pas jusque là, hein, mais non, mais c'est plutôt la sympathie du truc. C'est plutôt la sympathie, c'est-à-dire que en fait, au lieu de considérer que c'est un milieu hostile, moi, je connais des amis artistes qui ont un peu l'angoisse de ça, parce que vous vous rendez pas forcément compte, c'est normal, mais il y a un truc quand même qui peut être très angoissant, où on se dit merde, j'ai été hyper vulgaire, va être le tribunal de je sais pas quoi et tout,
c'est ça.
De ma personnalité et de ce que j'ai à dire, et suis-je quelqu'un d'intéressant en dehors des œuvres dans lesquelles que je traverse humblement, quoi.
Non, et en fait, il y a un truc le plus dur pour un invité, pardon Camille Chamou, le plus dur, c'est qu'il subit l'univers dans lequel il rentre. Généralement, c'est pas l'inverse, c'est pas l'émission qui se met dans l'humeur de l'invité, c'est l'invité qui doit être. S'il arrive dans une émission drôle, il doit être drôle. S'il arrive dans une émission un peu politique, il doit connaître les dossiers et avoir son opinion et prendre des risques et s'avancer. Et donc c'est c'est un peu dangereux.
Exactement. Mais en fait, moi je trouve que la merveille de la radio et de la radio en direct et tout ça, et des émissions en direct en général, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on disait sur le théâtre tout à l'heure, c'est que c'est juste des gens ensemble qui vont faire fonctionner leur cerveau ensemble, et c'est ça que le spectateur ou l'auditeur kiffe en fait. C'est ça qui va être extrêmement agréable à écouter. C'est une humeur collective. Et il n'y a pas plus que ça. Et en fait, c'est comprendre ce truc-là. Quand tu l'as vécu de l'intérieur, tu captes ce truc et tu captes que c'est ça qui est sympa pour les auditeurs et que c'est juste une humeur, quoi.
Tom Villa.
Oui, mais Camille, elle a ce chic et cette gentillesse de ceux qui ont fait cet exercice et qui sont gentils avec ceux qui le font aujourd'hui.
Parce qu'il y en a
pour qui ce n'est pas le cas.
Non, mais c'est vrai. Mais oui, mais il y en a qui l'ont fait et qui
ouais, je suis d'accord.
sont un peu
ouais.
dans le déni ou sont pas forcément gentils alors qu'ils ont fait ce même exercice il y a 5 ou 10 ans.
Voilà. Ah, non, mais n'oublions jamais, n'oublions jamais.
Et donc maintenant c'est officiel dans le nouveau spectacle, Camille Chamou chantera, parce que je vois pas comment tu peux ne pas chanter dans
ton
spectacle.
Utiliser ce bel organe qui est ma voix, bien sûr.
Merci mille fois Camille d'avoir trouvé le temps d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, à partir du 9 juin, vous allez sur le site internet champs-elysées-festival.com sans aucun piège dans l'écriture de l'adresse. Vous pourrez assister au film, assister au masterclass, assister au DJ set, tout ça, des rendez-vous très précis qui vous seront donnés sur le site. Et si vous suivez l'Insta de Camille Chamou, peut-être que vous aurez la chance d'être entre guillemets convoqué amicalement à l'un oui. de ses à l'un de ses spectacles pour roder son son spectacle de pendant 40-45 minutes, une petite heure, en ayant hâte quand même que la vie reprenne, que le partage reprenne et que l'on
Exactement,
puisse à nouveau se retrouver dans des salles de spectacle et de rire à gorge déployée quand elle est sur scène. Moi, je suis totalement fan de Camille Chamou. On t'embrasse fort, Camille. Porte-toi bien. Merci mille fois en tout cas.
Embrasse.
Merci.
Ciao. Salut, Camille.
Ciao.
France Inter. Nagui, la bande originale.
Voici les Spinners dans la bande originale de votre matinée. Là, regarde, écoute dans tes oreilles. Ça s'appelle I'll Be Around. Et tout de suite après, Tanguy Pastureau. Et peut-être, si on a un peu de chance, des excuses de Daniel Morin. Les Spinners avec ce titre I'll Be Around, et tout de suite dans la bande originale de votre matinée, Monsieur Tanguy Pastureau. Tanguy, bonjour, on se connaît
bonjour.
Peu, mais j'aimerais donc savoir, sans être totalement indiscret, que faites-vous de vos journées ?
Eh bien Nagui, je lis beaucoup, je réfléchis aussi et je note mes pensées sur des carnets, j'en ai déjà 25. que je cache dans mon chien. Je les roule dans du jambon. La petite bête qui est un teckel les avale. Là, elle fait 170 kilos. Mais en fait, bon, je vais être honnête. Hein, ça, c'est ce que je dis sur Inter. Je ne lis pas, bien sûr. Plus personne ne lit. Ou alors à la plage parce qu'on a peur de foutre du sable dans sa tablette. Non, je regarde des séries comme Crêteville. Hein, c'est plus facile. Prenez Netflix. Les épisodes s'enchaînent seuls. Vous n'avez plus rien à faire. Hein, moi, mon pouce a perdu en puissance musculaire. Avant, je zappais. Mon pouce, c'était Booba. Maintenant, au bout de ma main, j'ai Jean-Michel Blanquer. Cette phrase avant n'a été prononcée que par deux profs de français venant de se refaire sire Madame Bovary et qui était un peu chaude. Mais le souci que j'ai avec Netflix, ce sont les algorithmes. Ce sont des petits calculs, comme ta tante a sur ses reins, et qui te connaissent par cœur. Par exemple, moi qui suis assez peu latin, hein, la passion, je m'en fous, la fièvre aussi, les scènes de sexe où des types bruns qui s'appellent Pablo font l'amour avec leur partenaire dans le coffre de la banque où ils commettent un braquage parce que c'est trop intense, ça me touche pas. La Casa des Papels, ça m'a gonflé. Et si c'est pour entendre Bella Ciao à Radio France, je vais au local de la CGT. Les mecs me la chanteront. Avant de crier, j'en place une pour Philippe Poutou. Non, moi, je regarde eh bien, des séries scandinaves avec des Jürgen et des Anouk qui se parlent uniquement quand ils trouvent un cadavre. Là, ils disent « Ah hein, !» Ils sortent le corps de la neige, le décongèlent au micro-ondes et réalisent qu'il s'agit en fait d'un ours polaire et pas de Didier Raoult qui serait laissé pousser les poils. Dans les séries nordiques, il y a peu de sexe. Hein. Il fait froid, ça gèle et après, si on appuie dessus, ça casse. Il y a peu d'émotions et aucun risque que le générique de fin soit Mambo Number 5 de Lou Béga. Donc, c'est fait pour moi. Seulement, il y a ces saloperies d'algorithmes qui font qu'ensuite, Netflix ne me propose que des séries se déroulant au nord de l'Islande. Or, parfois, j'ai besoin de soleil, enfin de voir le sud de la Suède. Et comme je suis un rebelle, je dis alors « fuck Netflix », je lui fais un doigt d'honneur et je prends une série que Netflix n'a pas prévue pour moi, ce qui est dur à faire sans le majeur avec la télécommande. Exemple là, j'ai vu Last Dance, un doc sur Michael Jordan, hein, la légende de la NBA, alors qu'à la base, je m'en fous. Hein, d'autant que Jordan a nui à l'humanité parce qu'il est à l'origine de millions de pieds qui puent à cause de ses baskets mal ventilées vendues à des ados sales. J'ai regardé ça juste pour faire enrager les algorithmes. Hein, je les imagine entre eux dire « Pastu est devenu ingérable, il a regardé la série sur Freud, puis le truc sur Jordan, c'est un ouf. Derrière, il va vouloir mater Petit Plat en équilibre ou un Truffaut sous-titré en mandarin. Impossible de cerner un mec comme ça. C'est ça que je veux. Que Netflix ne me connaisse pas. Je parle déjà pas avec vous, l'équipe de la bande originale, pour garder un peu de mystère. C'est pas pour qu'un robinet à série me dise un jour qu'en fait, il est mon père. Alors, Last Dance, sinon, bon, bof. Hein, le souci est que Jordan est coproducteur de cette série sur lui. Donc, on le voit dire « Oui, j'étais bon. » Puis ses ex-collègues dire « Oui, il était bon. » Enfin, ça ressemble au biopic de Ségolène Royal. S'il était réalisé par Ségolène Royal, sauf qu'il y aurait moins de paniers. En fait, un seul, hein, lors d'un tour sur un marché du Poitou en 2011 où elle avait pris des radis. Rocketman, le biopic d'Elton John. Pareil, c'est produit par son mari. Donc, tout est super, alors qu'il a quand même fait la chanson du Roi Lion. Hein. L'esprit critique est donc tué par le business. Merci bien, moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Je retourne en Islande.
Merci, Tanguy.
Ah bah si.
Pas prendre de mes chroniques, pas ce truc de gauche, c'est honteux. Je quitte cette antenne.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Ouais, désolé déjà pour les experts en architecture qui disaient « Eh merde, il y a un poteau au milieu de la pièce, on lâche l'affaire ». Eh ben, ce matin, ils ont pris une claque d'initiative avec Nagui le bâtisseur. Eh ouais, Nagui, s'il y a un poteau au milieu de la pièce, eh ben, il lâche rien. Il démolit la contrainte, il fait le tour du poteau. Eh ben ouais, fallait y penser. Désolé pour l'équité, la justice, la morale. Vous avez sûrement remarqué que pour le blind test, j'ai été honteusement volé par Nagui le fourbe, qui bien sûr a favorisé sa fille cachée, Marina Rolmengi. En même temps, pourquoi s'étonner de ce genre de pratique de la part d'un mec qui se prend 50% de commission sur toutes ses émissions soi-disant caritatives? Tu m'étonnes qu'il a le sourire tout le temps, le troll des pyramides. Et enfin, désolé pour nos auditeurs fidèles qui ont été choqués par la présence de notre invitée, Camille Chamou, une invitée qui a fait des études supérieures. C'est vrai que ça n'arrive presque jamais. Pardon, mais c'est pas gênant, les amis.
Merci, Daniel Morin. Merci, Marina Rollman, Tom Villa, Jérémy Crédville, Tanguy Passuro. Merci, tout le monde. Passez une très bonne journée. Demain, on se retrouve avec Annie Dupéré pour SOS Village d'Enfants et pour la pétition Ethic for Animals.